Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
20h10 à Paris, c'est l'heure de décrypter la vie politique française sur RFI.
Sébastien Duhamel.
À 2 semaines maintenant du premier tour des législatives, la campagne débutera officiellement demain. Mais les stratégies sont déjà en place. La pré-campagne rythmée par des polémiques et des dissidences. Dimanche politique, c'est parti. Et notre invité avec nous en studio ce soir, Pascal Perrineau, professeur émérite des universités à Sciences Po, ancien directeur du CEVIPOF, auteur notamment de l'ouvrage Le Populisme aux éditions PUF. Bonsoir Pascal Perrineau.
Bonsoir.
Pour démarrer cette émission, la NUPES, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, bien placée dans les intentions de vote, autour d'une personnalité forte, celle de Jean-Luc Mélenchon. Il était l'invité de BFM Politique aujourd'hui et il réagissait sur l'une des polémiques qui a justement rythmé la vie politique ces derniers temps, sur le burkini que le maire écologiste Éric Piolle a autorisé dans les piscines de sa ville, Grenoble. Une polémique qui n'est manifestement pas du goût de Jean-Luc Mélenchon.
Ça me saoule.
Ça vous saoule, pourquoi ?
Oui, ça me saoule. Parce qu'il y a 6000 piscines publiques et 4000 privées. Et je n'ai pas l'intention de me prononcer sur les règlements intérieurs de toutes ces piscines.
Alors, je vais vous poser la question autrement, si vous permettez.
Parce que je ne vois pas l'intérêt qu'elle a.
Si, mais laissez-moi essayer.
Non, mais vous n'avez pas tout à l'heure, vous avez commencé sac de nœuds entre le président de région et le maire de la commune. C'est passionnant, sans oublier le directeur de la piscine.
Les féministes.
Jean-Luc Mélenchon, saoulé sur BFM TV, il dira ensuite que le Premier ministre ne se mêlera pas des règlements des piscines. Et oui, comme en 2017, Jean-Luc Mélenchon entend se faire élire Premier ministre, entre guillemets, en remportant la majorité lors de ses législatives. Et avec la NUPES, il a réussi à fédérer les forces de gauche, contrairement à il y a 5 ans. Aurélien Devernois, vous suivez la gauche justement pour le service politique de RFI. Et à travers cette polémique de la burkini, avec des attaques venues de tous bords, de la droite, de l'extrême droite, comme de la majorité présidentielle, on comprend que cette nouvelle union est la force à abattre avant ces législatives. C'est un peu tous contre la NUPES.
Oui, tout à fait, Sébastien. C'est d'ailleurs une stratégie politique très officielle du côté du Rassemblement national, comme l'a révélé le site d'investigation Mediapart vendredi. Des documents contenant des éléments de langage anti-NUPES ont été transmis aux candidats RN aux législatives. On leur conseille de diaboliser le Rassemblement insoumis, socialiste, écologiste et communiste, qui ne serait plus la gauche, mais, je cite, une extrême gauche pro-islamiste. La mélodie d'une gauche qui aurait perdu sa boussole, son identité, c'est aussi celle jouée par le camp Macron, où les attaques se concentrent toutefois davantage sur la politique internationale ou l'économie. Alors pourquoi cet attachement soudain à la vraie gauche, me direz-vous ? Eh bien, parce que les sondages sont plutôt flatteurs pour la NUPES. L'Union des Gauches est aujourd'hui en tête des intentions de vote pour le premier tour. Si elle venait à remporter les législatives, ce serait évidemment une catastrophe pour Emmanuel Macron, forcé à une cohabitation. Et même en cas de défaite de la NUPES, son influence future inquiète dans le camp présidentiel. Personne n'a envie de gérer 150 ou 200 députés menés par les très remuants insoumis. Du côté du Rassemblement national, eh bien, la situation est encore plus délicate. Marine Le Pen a semblé dans un premier temps vouloir enjamber ses législatives en estimant qu'Emmanuel Macron allait de nouveau obtenir facilement la majorité à l'Assemblée nationale, ce qui a évidemment ouvert un espace politique supplémentaire à la NUPES. La patronne du RN s'est depuis rendue compte de son erreur. Plus question de laisser s'installer l'Union des Gauches comme la principale force d'opposition. Marine Le Pen ne perd d'ailleurs pas une occasion de rappeler que c'est bien elle qui est allée au second tour de la présidentielle et pas Jean-Luc Mélenchon.
La NUPES, bien placée donc dans les intentions de vote, mais touchée par quelques fissures, si on peut dire, Aurélien, touchée par le phénomène des dissidences.
Oui, et d'ailleurs, là encore, la critique autour de la perte d'identité de la gauche est au cœur de la fronde menée par une partie des anciens dirigeants du Parti Socialiste. Après l'ex-premier ministre Bernard Cazeneuve, c'est l'ancien président François Hollande qui a décidé de mouiller la chemise pour soutenir des candidatures dissidentes. Elle serait pour les seuls socialistes aux alentours de 70, selon le décompte de celle qui a lancé la révolte, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga. Il faut aussi prendre en compte de multiples initiatives locales, notamment en région parisienne. Ces candidatures, certes, n'ont quasiment aucune chance de victoire, mais elles risquent bien d'être synonymes de défaite pour un certain nombre de candidats NUPES. Pour l'instant, les dirigeants de l'Union font profil bas pour éviter de faire de la publicité à ces dissidences, mais il y aura des règlements de compte, sans doute dès le second tour et plus probablement lors des élections municipales dans 4 ans.
Merci Aurélien Devernois. Pascal Perrineau, On vient de le voir avec Aurélien de Vernois, hein. C'est un peu tous contre la NUPES. Cette nouvelle union de la gauche est au coude à coude avec Ensemble, qui incarne la majorité présidentielle. Cette majorité présidentielle aura du mal à renouveler, hein, ce qu'elle a fait en 2017 et une écrasante majorité à l'Assemblée. Cette élection, ces élections législatives qui s'annoncent finalement, elles sont beaucoup, beaucoup plus ouvertes qu'il y a 5 ans.
Elles sont plus ouvertes qu'il y a 5 ans, mais il ne faut pas tout de même se tromper. Ce sont des élections qui viennent quelques semaines après l'élection présidentielle. On sait depuis l'inversion du calendrier électoral au début des années 2000 et la mise en place du quinquennat qu'en général, les élections législatives ne contrarient pas l'élection présidentielle parce que les Français viennent d'élire un président, ils ne vont pas, quelques semaines plus tard, l'empêcher de gouverner en instaurant une majorité législative, qu'elle soit de gauche ou de droite, qui contrarierait les ambitions du président. Donc la probabilité la plus élevée, c'est que la coalition qui soutient Emmanuel Macron reste majoritaire en termes de sièges. Parce qu'il faut faire attention. La NUPES, d'abord, c'est une union des gauches tout à fait particulière, parce que c'est la première fois que la gauche de la gauche et l'extrême gauche sont insérées dans une union de la gauche. L'union de la gauche, jusqu'à maintenant, qu'on appelait jadis gauche plurielle, ça s'arrêtait au PC, ça n'allait pas plus loin. Et donc là, ça donne une tonalité particulière qui explique en particulier les dissidences de ce qu'on pourrait appeler les socialistes modérés, qui vont, dans certaines circonscriptions, se présenter. Les radicaux de gauche également ne sont pas dans l'alliance. Donc c'est une alliance de gauche tout à fait particulière qui donne à cette union des gauches un côté entre guillemets extrémiste que l'union de la gauche auparavant n'avait pas. Et il faut bien voir que la dynamique électorale pour l'instant de la NUPES n'est pas si importante qu'on veut bien le dire. Parce que si vous faites le total à la présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, du candidat des Verts, de la candidate du Parti Socialiste, eh bien vous arrivez au score que fait la NUPES aujourd'hui, c'est-à-dire 27 à 28% des suffrages exprimés. Et donc c'est une force, oui, mais c'est une force relativement solitaire qui, dans la perspective des seconds tours dans les 577 circonscriptions, n'aura que très peu de réserves électorales, ce qui fait, voyez, la différence avec Ensemble, c'est-à-dire la coalition gouvernementale qui, elle, aura des réserves du côté de la gauche modérée, du côté de la droite modérée.
On a parlé des dissidences au sein de la NUPES, il y a aussi des dissidences au sein de la majorité présidentielle. Il y en a quelques-unes, on les a vues. C'est un peu un poison partagé, en quelque sorte, ces dissidences aujourd'hui.
Oui, parce que ce qu'on découvre, c'est que la Macronie n'est pas un camp unifié. Au fond, la cohabitation, ça ne sera pas entre Macron et la NUPES. La cohabitation, ça risque d'être au sein de la coalition majoritaire entre...
C'est la République en marche, voilà, Modem et Horizon, hein, il faut le rappeler.
Modem, Horizon, les petits partis de gauche qui sont alliés avec Macron comme Territoire et Progrès, le mouvement qui vient de se créer autour de Jean-Pierre Chevènement. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir une cohabitation, d'autant plus que le président ne pourra pas se représenter. Donc maintenant, les ambitions post-Macron ont déjà commencé. Et on le voit très bien avec le président d'Horizon, qui est l'ancien Premier ministre,
Édouard Philippe,
et qui pense, on le voit de manière évidente, à l'après-Macron et à la prochaine élection présidentielle.
Quand tu as parlé des dissidences, il y en a une qui illustre bien ce phénomène, justement, au sein de la majorité présidentielle. C'est l'investiture de Manuel Valls, sous l'étiquette Ensemble, donc, candidat dans la 5e circonscription des Français de l'étranger, qui regroupe l'Espagne, le Portugal, Andorre et Monaco. Et ça se passe mal avec le député sortant Stéphane Vojetta qui continue d'afficher son soutien au chef de l'État. Manuel Valls a d'ailleurs reçu cette semaine un soutien de taille, lui, celui du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, un ami, comme dit Manuel Valls. Écoutez la vidéo publiée sur les réseaux sociaux par Bruno Le Maire.
Chacun connaît les qualités d'homme d'État de Manuel Valls. Il a été un ministre de l'Intérieur particulièrement attaché à la défense de la République, particulièrement attaché à la défense des principes de laïcité qui sont au cœur de notre contrat social. Il a su aussi apporter des résultats très concrets dans la lutte contre la délinquance et dans le rétablissement de la sécurité pour tous nos compatriotes. Il a ensuite montré ses mêmes qualités d'homme d'État quand il était Premier ministre et je crois qu'elles seront particulièrement utiles à l'Assemblée nationale.
Voilà le soutien de Bruno Le Maire à Manuel Valls, qui serait utile à l'Assemblée nationale. Pourtant, les deux hommes étaient adversaires par le passé. Quand Manuel Valls était notamment Premier ministre du gouvernement de gauche de François Hollande, Bruno Le Maire, alors député UMP de droite, s'était montré très critique dans la même Assemblée nationale contre la réforme des collèges notamment. Ou quand Manuel Valls était ministre de l'Intérieur en janvier 2014, au lendemain d'une manifestation contre le mariage pour tous réprimée par la police. Écoutez ce que disait alors Bruno Le Maire sur iTélé à l'époque.
Je crois que Manuel Valls a fumé la moquette.
Où est-ce qu'il a vu de dangereux délinquants dans les personnes qui ont défilé hier? La ficelle est un peu grosse. Manuel Valls, il lui manque un brevet de gauche. Alors il se saisit de ce sujet. Au lieu de calmer la situation, il attise les braises, et je le lui reproche. Et au lieu de faire la police tout court, il est en train de faire la police de la pensée.
Manuel Valls qui fumait la moquette il y a quelques années, un grand homme d'État aujourd'hui, ça ressemble un peu à un grand écart de Bruno Le Maire, Pascal Perrineau. Rassembler des coalitions aux horizons assez larges, dirons-nous, ça conduit nécessairement à des revirements comme ça, à des compromis, voire des compromissions?
Bien sûr, indépendamment des évolutions que connaissent toutes les familles politiques, et là on en a un exemple évident, il y a le fait que la majorité aujourd'hui macronienne, c'est une majorité, comme le dit le président, et de droite et de gauche. Et donc quand on est de droite et de gauche en même temps, ça suscite des confusions, ça suscite des reconversions, et là on voit le cas d'une reconversion tout à fait évidente. Mais d'autre part, il faut bien voir, si vous voulez, que sur le terrain, il y a aussi la résistance de ceux qui ont fait un travail d'implantation pendant 5 ans et qui sont obligés de laisser la place de temps en temps à des parachutés, à des vedettes. Et on comprend assez bien que le local, à ce moment-là, s'insurge contre une perspective qui est une perspective nationale.
RFI, vous écoutez Dimanche Politique. Un autre sujet qui s'est invité avant ces législatives, on a vu ces dernières semaines la droite, le camp d'Emmanuel Macron et la gauche de Jean-Luc Mélenchon secoués par des affaires présumées ou confirmées de violences faites aux femmes. Damien Abad, Jérôme Perra, Taha Bouhafs. Alors, tout cela pose une question. Que font les partis politiques face aux violences sexuelles et sexistes? Lucille Gimbert, vous travaillez pour le service politique de RFI et force est de constater que les partis peuvent mieux faire et qu'ils ne réagissent finalement souvent que lorsqu'ils sont confrontés à la polémique.
Oui, les plus avancés dans leur réponse sont les écologistes. Et pour cause, Europe Écologie Les Verts a vécu un séisme en 2016 avec l'affaire Baupin. Le député et vice-président de l'Assemblée nationale, Denis Baupin, a été mis en cause par plus d'une dizaine de femmes de son parti pour des faits de harcèlement et d'agression sexuelle sur près de 15 ans. La justice a classé sans suite pour prescription, mais elle a corroboré ces accusations. Depuis, pour lutter contre la loi du silence, les Verts se sont dotés d'un organe d'écoute et surtout d'un organe d'enquête. Du côté de la France insoumise, une commission dédiée au recueil des témoignages existe. En une grosse année, chacune de ces instances a traité une dizaine de signalements. Quant aux socialistes, secoués par une affaire à Paris, une commission similaire est en cours de création.
Et les accusations donc de viol présumé contre le ministre Damien Abad éclaboussent en tout cas la Macronie aujourd'hui, mais aussi les Républicains, dont il est un transfuge. Alors, qu'en est-il dans ces deux formations, Lucille ?
À La République En Marche, il existe une plateforme spécifique, mais un seul signalement a été traité en un an. Quant à la droite, elle n'a aucun organe dédié. C'est le secrétaire général du parti, Aurélien Pradier, sensible à ces questions, qui se charge de ces sujets. 3 cas lui sont remontés, dont celui de l'ex-président des Jeunes LR, écarté après des accusations d'agression sexuelle, dont il a finalement été blanchi. Ce n'est pas parce qu'il y a une instance spécifique que ça se passe mieux. C'est la justice et la police qui doivent mieux recueillir la parole des femmes, justifie le député LR Pierre-Henri Dumont.
Merci Lucille Gimbert. Pascal Perrineau, des scandales à répétition. Est-ce que les partis ont mis en place suffisamment de garde-fous aujourd'hui ?
Des scandales à répétition, en effet, qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite. Personne n'est à l'abri de ce type de comportement déplorable, qui est dû à un phénomène de culture machiste qui perdure encore, qui, bien sûr, les choses ont évolué. Mais comme vient de le dire la journaliste d'RFI, le problème n'est pas simplement de créer une xième cellule d'écoute, même interne au parti. Le problème est de saisir, dès qu'il y a une affaire de ce type, la police et la justice, afin d'instruire ça de manière, j'allais dire, professionnelle, en préservant, bien sûr, le fait que la culpabilité n'est pas simplement dans la rumeur, et qu'il peut y avoir aussi des rumeurs, on le voit, pour ces hommes, plus que ces femmes, pour ces hommes qui peuvent être blanchis après avoir été soupçonnés.
C'est pas aux partis politiques de faire le travail de toute façon de la
ça
justice.
Ça n'est pas
ni de la police.
Aux partis politiques de faire un travail de police et de justice, mais c'est aux partis politiques d'être transparents là-dessus et très rapidement de saisir la police et la justice afin que ces affaires soient instruites le plus rapidement possible.
Le cas Damien Abad, justement. Cette polémique, ça a en tout cas entaché la première semaine du nouveau gouvernement Borne. Le premier Conseil des ministres, c'était lundi, et finalement, tous les esprits étaient focalisés là-dessus.
Bien sûr, étant donné l'importance prise à juste titre par cette question, en particulier depuis le mouvement MeToo, la France se réjouissait d'avoir enfin à nouveau, mais bien longtemps après Edith Cresson, une première ministre femme, et patatras, parmi les ministre sélectionné par cette première ministre femme et proposé à la nomination du président de la République, eh bien, voilà, il y a Damien Abad qui est présumé innocent, mais qui est accusé aujourd'hui de viol par plusieurs victimes. Donc, il faut maintenant que la justice s'empare de cette affaire et que cela soit tiré au clair, parce que comme Damien Abad a été maintenu, il ne faut pas, en effet, qu'on ait une campagne électorale où on ne parle plus de politique, mais d'affaires de mœurs.
Une autre polémique est en train d'éclater aujourd'hui autour de la finale de la Ligue des champions de football. C'était hier soir au Stade de France, avec des débordements aux abords du stade et une réponse policière vivement critiquée. Gérald Darmanin s'est déjà défendu. Une réunion au ministère des Sports est prévue demain pour faire la lumière sur ces dysfonctionnements. La doctrine du maintien de l'ordre, c'est devenu un sujet éminemment politique, Pascal Perrineau, une arme politique même ?
Oui, c'est devenu un sujet politique, parfois à juste titre, parce qu'on sait très bien en matière de répression, lors de manifestations qui dégénèrent, il y a plusieurs stratégies de maintien de l'ordre qui ne sont pas les mêmes en France et dans d'autres démocraties européennes. Donc le fait qu'il y ait un débat avec un benchmarking, si vous me permettez, entre les différentes techniques de maintien de l'ordre, c'est plutôt une bonne chose. Mais là, en effet, on a assisté à quoi ? On a assisté à la fois à un personnel du Stade de France qui a été débordé et à une stratégie. Pourtant, il y avait, je crois, plus de 6000 policiers qui avaient été mobilisés, une grosse présence policière. En tout cas, aux abords du stade, ça n'était pas suffisant. Et deux types de délinquance se sont mêlés. La délinquance d'une partie des supporters parfois un peu trop alcoolisés du club de Liverpool, et de l'autre côté de bandes qui ont l'habitude de profiter de troubles autour du Stade de France pour développer des comportements extrêmement violents. Et ces deux types de délinquance se sont jointes hier et ont pris, j'allais dire, en tenaille des gens qui tout simplement avaient des billets, attendaient sagement l'entrée dans le stade et n'ont pas pu entrer dans le stade.
Mais sur la politisation de ce type d'événement et de la réponse policière,
c'est inévitable parce que, si vous voulez, Gérald Darmanin est un des pivots, un des trois premiers ministres les plus importants après la première ministre. On sait que les enjeux régaliens sont très importants. Il y a une préoccupation très forte des Français vis-à-vis de la sécurité et à la fois à gauche et à droite, et particulièrement à droite, il y a la volonté de dénoncer ce qui pourrait être perçu comme une anarchie ou un certain laxisme sur ce terrain régalien de la sécurité.
Donc ça devient un objet de récupération et d'armes politiques, en quelques mots.
Et ça n'est pas fini.
C'est-à-dire que demain, il y a une réunion justement au ministère des Sports, donc on s'attend à ce que ça rebondisse et qu'il y ait encore à nouveau des récupérations, des réactions et des polémiques.
Tout à fait.
RFI. Il est 20h, bientôt 29 minutes ici à Paris. Merci à Fabrice Viollet qui a réalisé cette édition de Dimanche Politique. Merci bien sûr à Pascal Perrineau qui a été notre invité, professeur émérite des universités à Sciences Po, ancien directeur du CEVIPOF, auteur notamment de l'ouvrage Le Populisme aux éditions PUF. Dimanche Politique, c'est donc tous les dimanches sur RFI à 20h10, 18h10 en temps universel. Restez fidèles à la Radio du Monde, on se retrouve la semaine prochaine.
7 000.